Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Histoire et Mémoire, une émission animée par la Société des Amis du Musée des Archives et de la Bibliothèque de Dreux. Alors j'ai ce plaisir aujourd'hui, moi Damien Chantraine, conservateur de ce beau musée d'art et d'histoire, de vous parler d'une exposition qui a été inaugurée il y a peu, une exposition qui est consacrée à une dynastie d'architectes de la Renaissance, les Métezeaux. Cette dynastie, on peut vraiment parler d'une véritable dynastie parce qu'en fait c'est une succession de génération en génération de maîtres maçons et d'architectes, mais aussi finalement, eh bien, nous le verrons, d'une grande famille drouaise, drouaise d'origine, drouaise d'attache, même s'il quitte le cocon de cette belle ville de Dreux, eh bien, ils y restent toute leur vie fidèles. Alors nous allons voir eh bien aussi que ces Métezeaux ont contribué à la grande histoire de l'art puisque en tant que maîtres maçons et architectes, ils sont été d'abord actifs à Dreux et puis ensuite ils sont montés à Paris comme beaucoup d'autres de leur temps, tout simplement parce que les deux dernières générations ont été architectes des bâtiments du roi. Alors, j'aurais pu, dès à présent, vous proposer un titre un petit peu plus long, en réalité, que « Une dynastie d'architectes de la Renaissance ». En réalité, il s'agit, en effet, de maîtres maçons et d'architectes, et aussi d'entrepreneurs, hein, ces Métezeaux, de la Renaissance et aussi du début de l'âge classique. Alors c'est un petit peu long, vous me direz, pour un titre d'exposition. Alors c'est pour ça qu'on l'a un peu raccourci. Éclaircissons donc ces différents aspects. D'abord, ce qu'est cette grande période de renouvellement artistique, littéraire, social, économique également de la Renaissance et qui se prolonge au début du XVIIe siècle sous le règne donc de plusieurs rois, des rois vraiment très célèbres aujourd'hui, des rois qui ont marqué la chronologie de l'histoire de France. Je parle bien entendu du règne de François Ier entre 1515 et 1547, mais aussi le règne d'Henri II, son successeur, entre 1547 et 1559. Puis après, nous avons Charles IX, 1560-1574, Henri III, surtout le bon roi Henri IV, ce bon roi qui a régné de 1589 à 1610. Et puis ensuite, il y a eu la régence de Marie de Médicis, puis le règne de Louis XIII. Alors voilà, tout ça nous conduit sur un siècle d'architecture. Parce qu'en fait, quand je parle de renouveau artistique en particulier, eh bien, cela se situe à tous les niveaux, dans tous les domaines des arts, bien entendu, la peinture, la sculpture, les arts décoratifs, mais aussi l'architecture. L'architecture est le point d'orgue, ça serait, on pourrait le dire aujourd'hui, le premier des arts, parce que c'est peut-être ce qui motiva en premier François Ier, qui est allé batailler dans le nord de la péninsule italienne, à appeler des artistes de cette région de l'Europe vers la France, à rejoindre les grands chantiers royaux pour ornementer, enrichir ces architectures françaises, les renouveler avec ces nouveaux répertoires d'ornementation et d'architecture au cœur même de la vallée de la Loire et aussi dans la région parisienne. Eh bien, on pense par exemple au château de Fontainebleau et à ces très beaux décors qui ont mêlé finalement les architectes français et les architectes de la péninsule italienne. Je parle de péninsule italienne tout petit éclaircissement qui me paraît nécessaire. L'Italie n'est pas unifiée avant la fin du XIXe siècle. L'Italie, en réalité, à cette époque-là, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, est une conjonction, une juxtaposition d'États. Par exemple, la République de Venise ou encore la République de Gênes, le Grand-Duché de Toscane autour de Florence et aussi les États pontificaux autour de Rome et qui s'étirent, je dirais, sur toute la botte. Donc, nous n'avons pas d'Italie unifiée, mais c'est quand même une opportunité en ce temps-là d'avoir un grand nombre de commanditaires. Je dirais que tous les doges, tous les ducs, le pape également, contribuent à générer les commandes pour la somme d'artistes que nous voyons aujourd'hui dans nos musées ou dans nos rues pour ceux qui ont dressé des plans et des élévations, c'est-à-dire le dessin des façades pour les architectures. Alors, à Dreux, eh bien, nous avons cette dynastie des Metezzo. Les Metezzo ont été, je viens de vous le dire, maîtres maçons, architectes et aussi entrepreneurs, ingénieurs. Ils ont des métiers très variés, en fait, ces Metezzo. Ils interviennent à plusieurs niveaux. On appelle maître maçon, en fait, l'artisan qui est chargé de construire les bâtiments. C'est un accès à la maîtrise qui requiert d'abord une longue expérience de terrain et qui s'obtient souvent après une période d'apprentissage et même la réalisation d'un chef-d'œuvre. Et puis, on a aussi, bien entendu, le métier d'entrepreneur, l'entrepreneur qui supervise, lui, la construction, qui traite avec les artisans dans ces vastes chantiers, qu'ils soient royaux ou civils ou même religieux. Parfois, l'entrepreneur est aussi architecte. Et l'architecte, eh bien, c'est une notion nouvelle. Une notion qui apparaît dans ce grand XVIe siècle, au moment de la Renaissance. L'architecte, lui, c'est un peu celui qui dirige tout. Alors, il donne les plans, c'est un bailleur de dessin, il corrige les plans, il se charge aussi du toisé des ouvrages, c'est-à-dire de la mesure des ouvrages. Dans la famille Metezzo, il y en a un qui est important à Dreux pour nous aujourd'hui, c'est Jean Metezzo. C'est peut-être le moins célèbre de toute la famille, et pourtant, c'est le premier à avoir été qualifié d'architecte, ou plus précisément d'architecteur, vers 1580. Alors, qu'est-ce que ce nom architecte ? Architecte, c'est un peu comme on peut le qualifier dans la péninsule italienne au XVIe, et particulièrement représenté par la personne de Léonard de Vinci, l'uomo universale, c'est-à-dire l'homme universel, celui qui a un savoir, qui dépasse le terrain même de ses expériences, de son apprentissage, qui en connaît beaucoup à la fois de l'homme et de la nature, et qui va le retranscrire dans ses justes proportions, ce nombre d'or notamment, qui est identifié à cette période-là par les mathématiciens et de grands hommes, notamment comme Léonard de Vinci, dans l'architecture. Eh bien, architecteur vient de l'italien, justement, architettore. Donc c'est bien montré, justement, l'origine de ce mot qui est aujourd'hui bien francisé. Alors, ces mots sont employés indifféremment, je dirais, pour l'un ou pour l'autre, des Metezzo, dans les archives que nous pouvons trouver aujourd'hui, qui sont parmi les seules ressources qui nous permettent d'appréhender cette dynastie d'architectes. Ces ressources, on peut le trouver notamment aux archives de l'agglomération de Dreux et du Drouet, à l'Odyssée. Alors c'est formidable parce que là-bas se trouvent notamment les registres de baptême des paroisses Saint-Jean et Saint-Pierre. Et c'est justement dans ces paroisses-là que sont nés nos Metezzo. Donc on trouve véritablement ces actes de baptême, ce qui nous permet de dater précisément leur naissance. Et puis, il y a parfois, et ce sont toujours des événements malheureux, mais nécessaires malheureusement, les actes de décès aussi, qui nous permettent de voir à quel moment ils disparaissent et à quel moment aussi, parfois, eh bien, leurs successeurs, dans les générations suivantes, prennent la suite dans leur métier et permettent aussi de renouveler leur art, puisque chacun apporte sa petite touche à cette dynastie. Les Métezeaux, c'est une famille drouaise. Une famille drouaise, alors d'origine, on n'en est pas sûr, on sait que les Métezeaux proviennent de l'actuel département d'Eure-et-Loire, donc de l'ancien royaume de France, qu'ils ont été actifs principalement dans le nord de la Loire, à part quelques réalisations, nous le verrons, de Clément de Métezeaux, au sud de ce grand fleuve. Les Métezeaux, c'est une famille drouaise à plusieurs égards. D'abord, ils y sont tous nés, sauf un, mais simplement parce qu'on n'en a pas la certitude, parce qu'on n'a pas retrouvé son acte de naissance, c'est Louis Métezeaux. Louis Métezeaux, lui, est un architecte important et néanmoins, il est rattaché à cette grande famille drouaise. Ils sont aussi attachés à Dreux, et notamment Clément II, qui lui, en habitant à Paris, n'oublie jamais ses racines et son affection pour Dreux est si forte qu'il contribue d'ailleurs, on le sait grâce aux archives, grâce aux comptes, régulièrement aux bonnes œuvres des pauvres de sa ville natale. Et il emploie aussi à Paris des serviteurs d'origine drouaise. Donc on est là dans un milieu qu'il tente de reconstituer autour de lui, un milieu d'affection, je dirais, un milieu de confort. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a réuni dans l'exposition que l'on peut voir au Musée d'Art et d'Histoire jusqu'au 17 décembre, donc sur une période assez longue, deux portraits. Un portrait gravé du vivant de Clément II Métezeaux, mais aussi un portrait peint, le seul portrait peint que l'on connaisse, représentant l'un des membres de cette dynastie. Un portrait qui nous a été prêté par le musée château de Versailles et qui faisait partie de ces grands portraits demandés par Louis-Philippe dans le cadre de cette volonté absolue qui est celle de réunir les représentations des personnalités qui ont fait l'histoire de France dans ce musée de l'histoire de France à Versailles. Et ces deux portraits, gravés et peints, comportent ce que l'on appelle une lettre, c'est-à-dire quelques mots qui parlent de la personne représentée. Et Clément II, eh bien, il est qualifié de druide. Alors c'est très curieux parce qu'on est au tout début du XVIIe siècle et les druides, c'est plutôt la période gauloise. Hein, ce sont les prêtres, notamment ici de la forêt des Carnutes, les prêtres qui ont prétendument fondé cette ville de Dreux qui ensuite a été gallo-romaine et puis ensuite médiévale et renaissance, etc. Cette ville serait donc d'origine druidique. Ça, c'est ce que dit la légende. Évidemment, il n'y a rien de précis dans cette histoire que je suis en train de vous raconter, mais il y a quand même donc une filiation jusqu'à ce Clément Ier Métezeaux. Clément Ier Métezeaux, druide, eh bien c'est un peu montrer la magie de son art, probablement. Une magie un peu incertaine qui viendrait des forêts, des êtres de la nature. Et puis c'est aussi, encore une fois, montrer son origine drouaise. Dreux, ville des druides. Et peut-être, j'aimais cette hypothèse, elle est un peu osée parce que nous n'avons absolument aucune trace dans les archives qui nous permettent de la consolider, eh bien, c'est tout simplement qu'il y aurait eu une corporation de druides. Il y avait au Moyen-Âge et probablement au début du XVIe siècle et encore au XVIIe siècle des corporations de métiers. Ça, on le sait, des corporations de drapiers, des corporations de teinturiers, de bouchers, etc. Et Dreux n'était pas exsangue, exclu de cette implantation de corporations. Et il y avait peut-être des bourgeois qui se réunissaient sous cette égide, sous ce titre de druide. Voilà, pourquoi pas émettre cette hypothèse, Clément II en aurait fait partie au même titre que les Drouais qui sont restés habités dans leur ville et d'autres Drouais qui, comme lui, sont allés ailleurs, porter très haut la flamme de cette ville qui fut sa ville natale. Trois générations de Métezeaux. Oui, trois générations. Même bien davantage parce qu'ils ont eu des descendants, mais qui n'ont pas eu la même singularité, qui n'ont pas eu la même aura. Trois générations, la première génération, elle est représentée par le patriarche. Pour nous aujourd'hui, qui nous intéresse particulièrement à Dreux, c'est Clément Ier. Clément Ier, il est né à Dreux, on ne sait pas trop quand, probablement à la fin du XVe siècle, et il a été actif uniquement à Dreux. Avant de mourir, on le sait, autour de février 1555. Alors, je vous dis qu'il a été actif à Dreux, et ça n'a pas été la moindre des activités, parce qu'en fait, on lui connaît notamment le beffroi. Hein, le beffroi qui a fêté les 500 ans de sa première pierre en 2016. Donc une première pierre qui a été posée en 1516, après 4 ans de travaux pour consolider les fondations, puisque le terrain était marécageux, il est toujours un petit peu d'ailleurs, hein, le sol bouge un peu à Dreux encore maintenant. Et puis Clément Ier Métezeaux, il a été aussi contributeur de l'élaboration du massif occidental de l'église Saint-Pierre. Nous sommes à Radio Grand Ciel, et oui, une radio qui est au cœur de cette paroisse Saint-Étienne d'Androuet, avec cette église paroissiale Saint-Pierre, dont on peut vraiment être fier, qui ressemble à une petite cathédrale. Hein. Et cet aspect de cathédrale, il est dû notamment à cette façade tripartite, hein, en trois parties, on la voit très bien organisée, avec ses entrées au centre, et puis ces deux tours, hein, de part et d'autre, une tour qui est achevée et l'autre qui est inachevée. Eh bien, les parties basses de ces deux tours et la partie centrale de cette façade sont dues notamment à Clément Ier Métezeaux. Clément Ier a utilisé le même répertoire ornemental et architectural qu'au beffroi. On le voit très bien quand on se positionne devant la façade du beffroi et devant la façade de l'église Saint-Pierre. Il y a une sorte de mélange entre un gothique tardif, dit flamboyant, de la fin du XVe siècle, et le début de la Renaissance, où l'on peut voir donc des ornements plaqués sur les façades, des ornements qui fusionnent avec cette tradition un peu médiévale. Et cela marque véritablement une période intermédiaire qui est celle du début du XVIe siècle et qu'on peut voir aussi dans d'autres localisations, notamment dans la Loire, je pense à l'aile François Ier du château de Blois. L'histoire de l'art, et plus particulièrement de l'architecture, à Dreux, elle se façonne comme cela, avec le patriarche de cette dynastie des Métezeaux dont nous venons de parler, Clément Ier, qui a eu en fait deux enfants. Un premier enfant, Thibaut, dont on va reparler, et un autre qui lui est resté drouet, c'est Jean. Jean Ier Métezeaux. Jean Ier est probablement l'un des disciples d'un architecte beaucoup plus célèbre aujourd'hui qu'est Philibert Delorme. Et Philibert, on le connaît grâce à la chapelle du château d'Annette, commande d'Henri II et de sa maîtresse Diane de Poitiers, installée donc dans ce village qui fait partie aujourd'hui de l'agglomération drouaise. Un morceau, un bijou de l'architecture de la Renaissance qui montre en quoi justement les architectes ont fait évoluer la maîtrise de leur crayon, notamment par le dessin, en préfigurant leurs bâtiments grâce aux plans et aux élévations, au dessin des façades. Jean Ier Métezeaux, il a été actif à Dreux, et on le sait parce qu'on peut lui attribuer aujourd'hui, grâce à un travail que l'on a fait avec une conseillère scientifique, Emmanuelle Loiseau, auteur d'une thèse sur les Métezeaux, une thèse de doctorat, dont il est prévu d'éditer un livre aux presses universitaires de Rennes. Et on a décidé, sans doute, comme elle le dit d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a quand même un doute, d'attribuer quelques monuments drouais à Jean Métezeaux. Eh bien, le premier, c'est une partie de l'édifice de l'église Saint-Pierre. En façade, la tour Saint-Vincent, donc la tour nord du massif occidental, et puis le bras sud de transept. Et on peut probablement lui attribuer aussi l'hôtel Montulé, qui est un hôtel particulier de la fin du XVIe siècle, et aussi la chapelle de l'Hôtel Dieu, Grande Rue. Vous voyez, donc ces trois édifices qui ont quand même contribué à donner à Dreux, à cette période-là, un nouveau visage. C'est une ville qui est économiquement très active en ce temps-là, mais c'est une ville qui voit se construire aussi ses monuments principaux qui sont toujours là aujourd'hui. Comment reconnaître le style de Jean Métezeau? D'abord, c'est un style qui présente un ordonnancement pré-classique, avec une volonté de symétriser les espaces, mais aussi de faire intervenir un répertoire ornemental inventé dans l'Italie de la Renaissance, c'est-à-dire des frontons triangulaires, des frontons arrondis, qu'on dit cintrés, et tout cela souligné par des appareillages, généralement d'ailleurs chez Jean Métezeau, alternant la brique et la pierre, ce qui donne une jolie polychromie en façade. Alors, il y a aussi un motif qui est très intéressant, mais alors il faut vraiment aller regarder avec attention les monuments de Dreux pour les voir, ces motifs-là. Ce sont des motifs ruinés, très directement inspirés d'ailleurs des fouilles archéologiques romaines, puisqu'on fait des fouilles notamment sur le Forum romain, et qu'est-ce qu'on découvre? Des colonnes brisées. Et vous pourrez voir en façade du transept sud de l'église Saint-Pierre, des colonnes qui sont tronquées, qui sont arrêtées là. En fait, c'est une volonté de l'architecte, c'est pas parce qu'elles ont été amputées, détruites, bien au contraire, et c'est un motif très subtil que l'on retrouve aussi imprimé sur la façade de l'hôtel Montulé. Donc il y a véritablement une circulation de ce répertoire ornemental d'un édifice à un autre. Je reviens sur l'hôtel Montulé parce que ça va me permettre de parler de cette dernière génération des Métezeau, en passant par Thibault, la deuxième génération. Thibault, lui, va moins nous intéresser aujourd'hui, mais il a une petite importance dans le sens où il a été quand même architecte des bâtiments du roi. Thibault travaille d'abord pour l'entourage du frère Henri III, François de France, duc d'Alençon, et c'est probablement par l'entremise de ce dernier qu'il devient architecte des bâtiments du roi en 1584. Thibault, il a une riche carrière en commande, qu'il reste difficile à suivre parce qu'on a un manque de traces dans les archives, mais on sait qu'il contribue notamment à l'édification du Pont Neuf à Paris, qui est aujourd'hui le plus vieux pont de cette ville, mais qui à cette époque était un pont véritablement singulier, parce que les ponts médiévaux étaient surmontés de demeures avec des rues pavées, souvent couvertes. Et là, c'est le premier pont qui est vraiment libre de toute demeure et qui permet une très belle circulation, d'ailleurs, au cœur de la ville. La dernière génération, eh bien, ce sont ses enfants, Louis et Clément II Métezeau. Et ce qui nous intéresse, c'est comment Dreux a été une sorte de laboratoire de l'architecture et de l'ornement à la Renaissance. Un laboratoire très surprenant, c'est-à-dire qu'en fait, on pense que tout a été édifié auprès des châteaux de la Loire, mais en fait, Dreux est véritablement une porte d'entrée pour découvrir cette richesse artistique des bords de Loire. On entend par exemple que l'hôtel Montulé a probablement, d'une certaine manière, préfiguré ce qu'a réalisé Louis Métezeau avec d'autres architectes, Place des Vosges à Paris. Et lorsque vous allez Place des Vosges et que vous voyez ces pavillons juxtaposés, édifiés en briques et en pierre, eh bien vous pensez tout de suite à l'hôtel Montulé quand vous êtes Drouet. Tout simplement parce que Louis est le fils de Thibault et que Thibault est le frère de Jean. Donc il y a véritablement une filiation entre ces architectes. Une filiation artistique également. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Clément II est le frère de Louis et que cette organisation de la place des Vosges à Paris est reprise un tout petit peu plus tard. Place Ducale, un chantier confié probablement à Louis et Clément II. Place Ducale dans cette ville nouvelle de Charleville. Pareil, on ne peut pas parler de ville nouvelle aujourd'hui, mais en ce temps-là, eh bien, c'est une ville qui est sortie de nulle part, on dit ex nihilo, de rien. Et c'est une commande de Charles de Gonzague, qui était duc de Nevers au début du XVIIe siècle, qui voulait faire sa propre ville pour les bourgeois de l'actuel département des Ardennes. Alors, qui furent donc Louis et Clément II? Bien, deux frères et deux dessinateurs de talent. Louis Métezeau est né vers 1563, nous ne savons pas trop où, probablement à Dreux, et il est mort à Paris en 1615. Il était lui aussi architecte des bâtiments du roi, et son frère a pris la suite pour cette charge à sa mort. Ce sont les deux seuls architectes des bâtiments du roi à bénéficier d'un logement au Louvre, preuve de la confiance royale qui leur était accordée. Et ils ont pu bénéficier aussi, grâce à cette charge, d'une grande liberté de commande. C'est-à-dire qu'on est venu les voir, tous les grands du royaume venaient leur demander de travailler pour eux. Et c'est surtout à Clément II que revient le grand fait d'armes de la dynastie, celui qui emporte tous les succès, celui qui permet leur renommée aujourd'hui, c'est la digue de La Rochelle. La digue de La Rochelle, édifiée en 1627-1628, durant ce siège de la ville tenue par les protestants, par le catholique Louis XIII et son comparse, le cardinal de Richelieu. Scène représentée d'ailleurs dans un très beau tableau conservé au musée d'art et d'histoire de Dreux. Clément II a édifié en tant qu'ingénieur cette fois-ci les plans de cette digue de La Rochelle. Savez-vous pourquoi La Rochelle est une ville qui devait être sous l'emprise royale et non pas sous celle des protestants, ces huguenots dont on les qualifiait à l'époque? Eh bien, peut-être pas tant parce que cette ville était protestante, simplement parce que ces protestants commençaient à devenir bien riches. Et de fait, voulait se constituer un peu à la manière de Venise en République. Alors, un petit noyau comme ça, libre au sein du royaume de France, pour l'économie française, c'était à la fois bon et pas bon, parce qu'elle échappait un peu au pouvoir royal, cette ville de La Rochelle. Voilà pourquoi, certainement, on fit appel à Clément de Métezeau, à son génie, pour dresser cette digue qui barrait la route à l'approvisionnement de la ville en victuailles et en eau. Les Métezeaux, une dynastie d'architectes de la Renaissance, une exposition à découvrir au Musée d'Art et d'Histoire jusqu'au 17 décembre. Et profitez-en pour découvrir aussi quelques œuvres sorties tout droit des réserves de ce musée pour vous. Des œuvres inédites, notamment une très belle cuirasse, une très belle armure de la fin du XVIe siècle. Une armure qui n'a que son équivalent dans un musée, nous venons de l'apprendre, de Philadelphie aux États-Unis. À bientôt.
La Société des Amis du Musée, des Archives et de la Bibliothèque de Dreux participe à la promotion et à l'enrichissement du Musée d'Art et d'Histoire de Dreux. Elle contribue à la vie du musée avec comme objectif la recherche et la fidélisation des publics, la participation à l'enrichissement des collections par l'achat ou la restauration d'œuvres ou d'objets. Elle organise plusieurs conférences par an. Ces conférences sont gratuites pour les adhérents de la Société des Amis et il sera demandé 5 euros aux non-adhérents. La prochaine conférence aura lieu le 12 octobre 2019 pour thème Diane, la chair et la chair par Anne Chevet.